de cela, les hommes sont plus exposés aux AVC que les femmes. Et puis, les sujets de race noire seraient plus exposés également parce que leur hypertension artérielle est souvent difficile à prendre en charge. Là, donc, ceci-là, ce sont ce qu'on appelle des facteurs de risque non modifiables.
Quels sont les facteurs de risque modifiables dont vous avez aussi parlé?
Les facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir en prenant des mesures de santé, à savoir l'hypertension artérielle, qui est un des facteurs de risque les plus importants, mais également, vous avez le diabète, le tabagisme, l'inactivité physique, c'est-à-dire la sédentarité, mais également les dyslipidémies, c'est-à-dire les troubles du cholestérol. Quand on a beaucoup de cholestérol, on peut également être un sujet à risque. Chez les femmes, l'utilisation des contraceptifs oraux, notamment les œstroprogestatifs. Et on peut également citer d'autres facteurs beaucoup moins fréquents, comme la drépanocytose, qui peut donner des AVC chez l'enfant. Chez l'adulte en général, on n'est pas exposé à cela. Donc en gros, voilà un peu ramassé ce qu'on peut avoir comme facteur de risque d'accident vasculaire cérébral.
Vu ces risques, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter un AVC?
Il y a donc ces facteurs de risque dits modifiables sur lesquels on peut agir. Parce que si vous êtes dépisté hypertendu, si vous avez une hypertension artérielle, on peut, à l'aide donc d'un médicament anti-hypertenseur, faire baisser les chiffres tensionnels et vous sortez du risque, en tout cas vous minimisez le risque donc de développer un accident vasculaire cérébral. À côté de cela, il y a aussi le diabète. Le diabète est dû à une élévation du sucre dans le sang et lorsque on diagnostique un diabète, il est possible, en utilisant des antidiabétiques, de ramener votre taux à un taux normal, donc on minimise ainsi le risque de développer un accident vasculaire cérébral.
Comment l'inactivité physique peut-elle contribuer à la survenue d'un accident vasculaire cérébral?
Pour ce qui est de l'inactivité physique, lorsqu'on se met à faire une activité sportive, on conseille en général 30 minutes à 1 heure d'activité sportive au moins 3 fois par semaine, ça peut déjà vous minimiser le risque donc, de développer ce type de maladie. Voilà, entre autres, certaines choses qu'on peut faire pour diminuer ce risque, en sachant qu'il y a donc l'âge, le sexe, la race, qui sont des facteurs non modifiables qui, à eux, peuvent également provoquer un accident ou exposer la personne à un accident vasculaire cérébral. Et encore une fois, c'est le fait d'accumuler les facteurs de risque qui peut conduire à la survenue d'un AVC. Moins vous cumulez les facteurs de risque, moins vous êtes à risque de développer un accident vasculaire cérébral.
Merci beaucoup, professeur. Salomon Mungindu veut savoir comment réagir devant les signes d'un AVC. Que faut-il faire au cas où votre proche est atteint d'AVC? Quels sont les premiers soins qu'on peut lui donner avant de l'emmener à l'hôpital?
L'accident vasculaire cérébral en lui-même est une urgence médicale, c'est une urgence vitale. Lorsqu'on suspecte un accident vasculaire cérébral, le fait de voir quelqu'un de façon brutale qui a la face qui se dévie ou bien qui a un membre qui se paralyse, que ce soit le membre supérieur ou le membre inférieur, ou bien qui subitement n'arrive plus à parler. Alors, dès qu'on a ce genre de signes, la première des choses, c'est vraiment faire tout son possible pour amener le patient dans une structure de santé, notamment un CHU, où on pourra donc le prendre en charge en urgence et faire les premiers soins, peut-être proposer de faire l'imagerie médicale, notamment le scanner dans notre contexte, pour savoir exactement si c'est l'AVC que la personne a.
Y a-t-il des aliments qui peuvent provoquer un AVC ou augmenter le risque d'avoir un AVC?
Disons que ce sont les aliments qui riches en cholestérol. Tantôt, j'ai dit que parmi les facteurs de risque, il y avait les dyslipidémies, c'est donc lorsqu'il y a un taux élevé de cholestérol dans le sang. Tous les aliments riches en gras, tout ce qui est riche en cholestérol, peut entraîner une augmentation du cholestérol dans le sang et donc provoquer cela. Donc c'est ce qu'on vous propose un peu dans les fast-foods. Lorsqu'il y a trop de gras, il y a trop de sucre, il faut faire attention. Voilà. Éviter de consommer entre les repas, les confiseries, etc., ou les pâtisseries, en fait, toutes choses qui peuvent entraîner une augmentation de la glycémie, mais également une augmentation donc, du cholestérol.
Est-ce que toutes les couches sociales sont exposées à l'AVC ou il y a des personnes qui sont à l'abri ou d'autres qui sont plus à risque? C'est vrai que vous avez déjà évoqué certaines personnes qui sont à risque.
En réalité, toutes les couches sont concernées par l'accident vasculaire cérébral. Parce que, comme je l'ai dit, il y a d'abord les facteurs dits non modifiables, que sont l'âge, le sexe, etc. Et donc, on est à risque. Et on n'oubliera pas un des facteurs de risque que souvent on minimise, c'est le stress. Et le stress est un facteur de risque également de survenir d'accidents vasculaires cérébraux. Et de plus en plus, on parle aussi de la pollution atmosphérique. Avec nos villes qui sont de plus en plus polluées, ça nous expose également, donc de l'inhalation de ces poussières en fumée. C'est donc aussi un facteur de risque de survenir des AVC.
Quelle est la prévalence des AVC en Afrique?
Il est difficile de donner un chiffre de prévalence parce que, en général, les études sont faites en milieu hospitalier. Ce sont donc des chiffres hospitaliers qu'on a. Mais je peux vous dire que dans les services de neurologie qui accueillent ces patients, on peut dire qu'à peu près 60 à 75% des patients qui sont hospitalisés dans ces services-là sont des cas d'AVC. Dans mon service en particulier, je ne peux pas faire un jour sans un nouveau cas d'accident vasculaire cérébral qui m'est transféré des urgences médicales. C'est pour dire que ça devient de plus en plus un véritable problème de santé. Dans le monde, on estime qu'il y a 17 millions de personnes qui souffrent d'accidents vasculaires cérébraux. Et il y en a 6 millions qui meurent par an. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un problème qui prend de l'ampleur de plus en plus.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité lié aux AVC diminue dans les pays à fort revenu, mais il explose dans les pays en développement. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela?
Surtout dans les moyens de prévention. Parce que dans les pays développés, d'abord la prise en charge, elle est meilleure. Les patients viennent plus tôt à l'hôpital. Et venant plus tôt, il faut savoir que pour un certain type d'accidents vasculaires cérébraux, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques liés donc à un blocage de la circulation au niveau du cerveau par un caillot, il est possible de faire ce qu'on appelle la thrombolyse. La thrombolyse donc qui permet donc de dissoudre ce caillot et ce qui va permettre à la personne de retrouver une certaine mobilité au niveau de son membre et parfois même de récupérer complètement de sa paralysie. Ce sont des choses qui sont faites de façon courante en Occident et qui ne sont pas faites en Afrique parce qu'on ne dispose pas de plateaux techniques suffisamment développés pour réaliser ce genre d'examen et les molécules coûtent cher. Donc il y a cet aspect. Et deuxièmement, il faut dire qu'il y a la prévention, c'est-à-dire que une fois qu'un patient nous fait un accident vasculaire cérébral dans les pays développés, tout de suite on identifie tous les facteurs de risque possibles qui ont pu concourir à la survenue de cet AVC et le patient est mis sous traitement pour prévenir les récidives d'AVC. Ce qui n'est pas le cas en Afrique où un patient vous vient pour un AVC, peut-être la première fois il ne va pas en mourir, mais un, deux mois après, il va revenir pour une récidive de son AVC. Et plus il en fait, plus il devient vulnérable et plus il est exposé à la mort. Et c'est un peu toutes ces raisons qui expliquent la forte mortalité en Afrique par rapport au reste du monde, notamment en Occident.
Un dernier conseil à donner?
Il faut rester dans l'alerte lorsque, comme je l'ai dit tantôt, vous avez quelqu'un qui, d'une seconde à l'autre, présente des signes de déficit, donc une paralysie. Quelqu'un qui parlait et qui d'une seconde à l'autre n'arrive plus à parler, quelqu'un qui pouvait mouvoir de ses quatre membres et qui d'une seconde à l'autre n'arrive plus à mouvoir une partie de ses membres, ou bien quelqu'un qui perd la vision de façon brutale ou qui a des céphalées très importantes avec un flou visuel, etc. Ce sont les signes, surtout le caractère brutal des signes, doit donner la puce à l'oreille, donc à l'entourage. Il faut penser à l'accident vasculaire cérébral chaque fois qu'on a ce genre de signes qui vous arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, avec donc des signes qui apparaissent de façon brutale. Et ne pas hésiter à amener le patient donc aux urgences médicales pour une meilleure prise en charge. La lutte contre les accidents vasculaires cérébraux passe donc par la prévention des facteurs de risque vasculaire. Et on en a parlé dans l'émission. Et je crois que chacun de nous est concerné par ce problème. Et donc j'invite donc ceux qui sont à l'écoute à vraiment faire attention donc à contrôler les différents facteurs de risque qui sont modifiables sur lesquels on peut donc agir. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. C'était notre discussion avec le professeur Christian Napan, neurologue et chef de service de neurologie au CHU de Bogodogo à Ouagadougou. Il est aussi enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Maintenant, place à Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Une enquête menée aux États-Unis montre que les nouvelles mamans négligent souvent leur santé et bien-être après l'accouchement. Le saignement des gencives, quand faut-il s'en inquiéter? Et enfin, de nouvelles découvertes incitent les scientifiques à repenser ce qui fait de nous des êtres humains. C'est dans cette édition de Carnet de santé.
À tous, merci de nous rejoindre sur Carnet de santé. Aujourd'hui, nous jetons un regard sur la maladie à virus Ebola, infection grave et souvent mortelle. La maladie se propage par le contact avec des liquides corporels ou du sang infecté. Depuis août dernier, une épidémie d'Ebola s'est déclarée dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la 10e fois que l'épidémie sévit dans le pays. La RDC s'efforce de contenir l'épidémie qui a aussi touché un pays voisin, l'Ouganda. En Ouganda, les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé déploient tous les efforts nécessaires afin de protéger la population contre la maladie à virus Ebola après l'introduction du virus dans le pays. Reportage à Lima Atumani.
L'agent de santé ougandais Masereka Robinson se rend tous les jours à pied au sous-comité de Kisenga pour informer les familles sur le virus Ebola, y compris la famille qui aurait introduit le virus mortel dans le pays. La visite à un parent infecté en République démocratique du Congo voisine a coûté à cette famille un enfant et une grand-mère. Les agents de santé ougandais mènent une campagne de vaccination avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé.
Maintenant, avec l'épidémie, et nous donnons à nouveau le vaccin aux agents de santé, en particulier à ceux qui auraient pu le rater la dernière fois. Nous leur donnons donc le vaccin ainsi qu'à tout autre agent en première ligne, pas nécessairement aux travailleurs médicaux, mais toute personne ayant eu contact avec le virus Ebola.
L'Ouganda a vacciné près de 5000 agents de santé. Même si les hôpitaux, les centres de dépistage et de traitement se disent prêts à lutter contre le virus Ebola, ils ne disposent pas des fournitures médicales nécessaires.
Il n'y a pas de gants, nous n'avons pas de masque pour nous assurer que nous sommes également protégés.
Les agents de santé ont mis en place une unité d'isolement à l'hôpital de Mbouira, où deux infirmières ayant été en contact avec la famille infectée sont surveillées. Les agents de santé en Ouganda espèrent que les vaccinations et les efforts de dépistage renforcés seront suffisants pour empêcher le virus de se propager davantage.
Pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous le docteur Malonga Nyatudila. Il est spécialiste en santé publique et consultant international. Docteur Nyatudila était l'un des docteurs présents lors de la découverte du virus Ebola en 1976. Docteur Nyatudila, merci de nous rejoindre.
Merci.
Alors, c'est vrai qu'on a mentionné un peu plus tôt comment le virus se transmet, mais pouvez-vous nous rappeler avec un peu plus de détails comment est-ce qu'une personne peut avoir le virus Ebola?
Eh bien, d'abord, le virus se trouve dans la forêt. Le virus vit en symbiose, donc en harmonie avec des chauves-souris.
OK.
Et puis, de temps en temps, les chauves-souris arrivent à infecter des animaux qui habitent dans la forêt, les antilopes ou les singes. Et alors, l'homme entre en contact avec ce virus en faisant de la chasse, en mangeant des chauves-souris.
Des animaux infectés. Oui.
Maintenant, une fois que l'individu qui est allé chercher le virus dans la forêt revient au village, il tombe malade 7 à 9 jours après avoir été en contact avec le virus.
D'accord.
Et à ce moment-là, c'est lui maintenant qui va commencer maintenant à infecter les autres membres de la communauté.
Et ça, c'est cette infection se fait lorsqu'une personne touche une autre personne qui est infectée.
Eh bien, il faut que ce contact soit assez intime. C'est pas seulement en saluant quelqu'un qui a Ebola qu'on attrape ça. Il faut vraiment être en contact avec les fluides.
D'accord.
La sueur,
le sang. Et maintenant, pour parler des symptômes, à quel moment, quels sont certains des symptômes qui peuvent indiquer que quelqu'un est infecté et à quel moment il faudrait vraiment penser à se rendre dans un centre.
Eh bien, au début, c'est un peu difficile, surtout dans les pays où la malaria existe de façon endémique. Parce que 7 à 9 jours après avoir été en contact avec le virus,
oui.
la personne sent qu'il a, il a présent des symptômes de malaria. Mot de tête, un peu de fièvre. Et généralement, le 13e, le 14e jour, c'est la mort.
Et nous avons Alphonse Mbouaki qui nous écrit de la RDC avec cette question sur Facebook. Lorsque quelqu'un attrape Ebola, docteur, quel traitement suit-il pour guérir de cette maladie?
Malheureusement, Ebola est un virus. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore un antiviral efficace contre Ebola. Il y a un vaccin qui est à l'étude, mais pour être, pour dire la vérité, on n'a pas encore un traitement sûr contre le virus d'Ebola.
Donc, docteur Malonga, merci de nous avoir rejoints. C'est tout le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Les femmes qui reçoivent de bons soins prénataux augmentent considérablement leurs chances d'avoir des bébés en bonne santé. Mais que se passe-t-il après l'accouchement? Une enquête menée auprès de certaines mamans aux États-Unis montre qu'elles négligent souvent leur propre bien-être. Reportage à Carol Pearson.
De bons soins prénataux signifient des visites régulières de la future mère chez son médecin durant les 9 mois de grossesse pour vérifier l'état de sa santé et celle de l'enfant qu'elle porte. Mais 3 mois après l'accouchement, Rachel Cobb se dit dépassée par la situation.
Les gens font ça depuis toujours et c'est une expérience partagée par tout le monde. Pourtant, je me suis sentie très seule et je ne savais pas qui demander de l'aide.
Durant cette période, appelée quatrième trimestre, 40% des mères se sentent déprimées. Une enquête de réseau d'hôpitaux d'Orlando Health a découvert que plus d'un quart des femmes n'avaient rien prévu pour la gestion de leur santé après l'accouchement.
C'est très important pour les nouvelles mères de faire un suivi auprès des sages-femmes ou des médecins, idéalement le plus tôt possible.
Vous vous dites immédiatement, je suis une mauvaise mère pour me sentir comme cela, alors que ce n'est pas du tout le cas.
Pour les femmes pauvres, la situation est pire. Une autre étude montre que les mères africaines-américaines ou hispaniques font face à plus de difficultés que les mères blanches de la classe moyenne.
Beaucoup de ces mères à bas revenus sont souvent incapables de faire face au coût élevé d'une alimentation saine ou simplement trouver du temps pour prendre soin d'elles-mêmes.
Pour beaucoup, ce n'est qu'une question de les rassurer, mais d'autres ont besoin de soins.
Le professeur Kiff dit que les politiques de santé doivent changer pour que les femmes pauvres aient, elles aussi, accès aux soins de santé dont elles ont besoin.
Une doula est une professionnelle formée à l'accouchement qui apporte un soutien émotionnel, physique et éducatif à une femme enceinte durant ou après l'accouchement. La doula a pour but, entre autres, d'aider les femmes à accoucher de façon sûre et leur permettre d'avoir une expérience mémorable. Jeanne-Marie Crow, infirmière et sage-femme en Californie, nous en dit plus.
Pour nous, aux États-Unis, le rôle de ces compagnes au moment de l'accouchement est selon moi très important, car elles interviennent et soutiennent culturellement les femmes. Dans l'un des hôpitaux où je fais mes accouchements, nous avons une importante population afro-américaine et très peu de sages-femmes et de médecins sont afro-américains. Donc, il n'y a pas de personnes de leur culture et de leurs origines qui les soutiennent. Et engager une doula pour les soutenir peut être essentiel pour qu'elles reçoivent les soins culturellement appropriés. À l'hôpital où je travaille maintenant, nous essayons d'introduire un programme doula. Un plus grand nombre de femmes des classes moyennes et supérieures sont en mesure de payer les services d'une doula. Certains hôpitaux ont des bénévoles qui viennent soutenir les femmes qui n'ont pas les moyens financiers et qui peut-être ignorent même leur existence. Nous espérons donc mettre au point un programme au sein de notre système hospitalier dans lequel les femmes pourront se faire accompagner d'une doula si elles le souhaitent. Certaines femmes travaillent avec des nourrices juste après l'accouchement, alors elles les rencontrent chez elles, elles les aident peut-être la nuit, car vous avez ce nouveau bébé qui allaite, vous êtes privé de sommeil, alors vous aider et vous soutenir dans ce processus, c'est un cadeau.
Si vous avez des gencives qui saignent spontanément au contact de la brosse à dents ou encore après l'utilisation du fil dentaire, vous vous êtes peut-être demandé si c'est grave ou pas. Nous avons posé la question au docteur Omoshibo Evelyn Echikena, présidente de l'association dentaire nigériane.
Le saignement des gencives est grave lorsqu'il n'est pas traité. Il peut avoir différentes causes, comme par exemple une maladie sous-jacente. Les symptômes apparents peuvent être également liés à des facteurs autres qu'une maladie, un brossage trop vigoureux, une utilisation inadaptée du fil dentaire ou une érosion causée par les aliments. La gingivite est la cause la plus fréquente du saignement des gencives. C'est une maladie des gencives qui est causée par une accumulation de bactéries dans la plaque dentaire qui finit par irriter les gencives. Elle donne lieu à des rougeurs et à un gonflement des gencives pouvant entraîner des saignements. Sans traitement, ces saignements des gencives peuvent progresser vers une pathologie appelée parodontite, qui est une forme plus grave de maladie des gencives. La parodontite provoque un relâchement des ligaments parodontaux des dents, ce qui peut entraîner une mobilité des dents et éventuellement une perte. Donc, le saignement des gencives est une affection grave lorsqu'il n'est pas traité.
Vous l'avez compris, prenez soin de vos dents, restez fidèles à Carnet de Santé. Dans nos prochains épisodes, nous parlerons d'autres maladies et infections dentaires, ainsi que les toutes nouvelles technologies qui peuvent vous aider à avoir un plus beau sourire. De nouvelles découvertes incitent les scientifiques à repenser ce qui fait de nous des êtres humains et même pourquoi nous tombons malades et comment rester en bonne santé. Une recherche estime que nous sommes humains seulement à 43% environ. Le reste de nous est constitué de micro-organismes qui affectent notre santé, notre humeur et la façon dont nous répondons aux médicaments. Reportage d'Elisabeth Lee.
Les scientifiques regardent ce qu'il y a dans les excréments d'une personne. C'est une fenêtre sur ce qui constitue plus de la moitié de l'être humain.
Ainsi, pour nos 30 milliards de cellules humaines, nous avons environ 39 milliards de cellules microbiennes, donc les cellules représentent 43% environ de ce que nous sommes.
Chaque personne est comme un immeuble qui abrite une variété de micro-organismes invisibles à l'œil nu. Les bactéries existent, on le sait, les virus aussi, les champignons également dans des endroits comme la bouche, la peau et les intestins. Mais ce n'est que depuis quelques années que les scientifiques ont réalisé que la bactérie intestinale de chaque personne est unique et que celle-ci peut avoir un impact important sur la santé, notamment sur son poids et le risque de maladies cardiaques. Les microbes dans votre intestin peuvent même affecter votre humeur.
L'idée est qu'au moins 70% de notre immunité et des cellules immunitaires de notre corps existent dans l'intestin. Et nous oublions cela.
Karen Sfanos étudie le lien entre les microbes et le cancer.
Il y a encore de nombreux cancers dont on ignore la cause. J'ai donc essayé de résoudre ce casse-tête. Et jusqu'à ce point, la moitié des pièces manquaient. Il existe une quantité énorme de connaissances à acquérir et à maîtriser pour comprendre l'influence profonde que ces microbes pourraient avoir sur le début du cancer.
Les chercheurs aspirent à un avenir où on pourrait éliminer les mauvaises bactéries et introduire davantage de bons microbes dans le corps.
Dans notre prochaine édition de Carnet de Santé, nous parlerons des blessures sportives et comment les éviter. Si vous avez des questions ou pour vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.
Nous voici arrivés, chers fidèles auditeurs, à la fin de Votre Santé, Votre Avenir qui était consacré aux AVC. Nous avions reçu le professeur Christian Napan, neurologue et chef de service de neurologie au CHU de Bogodogo à Ouagadougou. Il est aussi enseignant-chercheur à l'université Joseph Kiserbo au Burkina Faso. Après, nous vous avons proposé Carnet de Santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierro. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.